Nous allons parler de la voie royale de la prière en Christ. On a l'impression que quand on parle de voie royale, de quelque chose d'effectivement de singulier, quelque chose qui serait très différent de ce que l'on connaît, quelque chose qui serait radical, royal. Eh bien oui, c'est tout à fait ça. Sauf que beaucoup d'entre nous, on ignore vraiment les aspects. Je ne vais pas vous apprendre des techniques particulières, je ne vais pas vous donner des méthodes qui parviendrait rapidement à entrer dans la méditation, dans l'oraison, comme on le dit plus familièrement dans la tradition catholique. Tout d'abord, il y a une première chose que nous devons savoir, c'est que lorsque nous cherchons à méditer, nous cherchons à rencontrer quelqu'un, nous cherchons à rencontrer Dieu, et nous essayons par différents moyens d'accéder à sa présence, d'accéder à son amour, parce que, évidemment, quand on parle de Dieu, c'est surtout de son amour dont il est question. Mais la première chose qu'il nous faut savoir, c'est que nous ne pouvons pas grand-chose, nous. Aucune technique ne nous permettra, aucune méthode ne nous permettra d'entrer véritablement dans ce qu'on appelle la méditation, l'oraison ou, encore plus loin, la contemplation. Ce que nous allons essayer de travailler ce matin, et puis dans les cours qui suivront, c'est les dispositions intérieures pour pouvoir entrer, pour pouvoir pratiquer cette méditation ou pratiquer cette oraison. Donc, nos efforts sont à peu près inutiles pour obtenir les fruits de la méditation. Cependant, c'est vrai que se mettre dans certaines dispositions, savoir comment s'installer, utiliser certaines méthodes n'est pas inutile. Mais ce ne sont que des outils. Et les outils ne sont qu'une aide partielle. Si nous n'avons pas les dispositions intérieures qui conviennent, eh bien, nous ne parviendrons jamais véritablement à entrer dans la méditation. On va parler de la première chose, c'est de la foi. La foi en quoi? Eh bien, comme nous l'avons déjà approché à l'instant, il s'agit d'avoir la certitude que Dieu nous aime, qu'il nous a aimés le premier, que son amour est un amour qui est total, qui est infini, ça veut dire sans limite, pour chacun d'entre nous, pour nous tous et pour l'ensemble des créatures. Et cet amour cherche à tout prix à nous éveiller, à nous attirer. Et nous sommes, et nous le savons, quand nous avons un peu de lucidité sur nous-mêmes, nous avons conscience que nous avons beaucoup de difficultés à nous tourner vers cet amour. D'abord, avoir foi, une foi vraiment qui soit réelle en cet amour. Parce que nous sommes préoccupés par mille et une choses. Parce que notre esprit est sans cesse attiré vers toutes sortes de préoccupations mondaines. Et surtout que nous allons, quand on essaie de pratiquer la méditation ou l'oraison, eh bien, nous allons découvrir combien nous avons beaucoup de mal à lâcher le contrôle. Et une des formes d'ailleurs les plus subtiles de se lâcher prise, comme on dit, c'est de renoncer à comprendre, de renoncer à vouloir savoir absolument où les choses nous conduisent. La compréhension, elle viendra de toute manière tôt ou tard, mais elle dut sous une forme tout à fait différente. Alors cette foi au départ en cet amour de Dieu est absolument capitale. Si on n'a pas cette certitude, ou du moins se rappeler que sans cesse elle nous permettra de nous désarmer, de retrouver la paix lorsque à nouveau nous serons égarés, ou dans des situations difficiles, savoir que Dieu nous attendra toujours. Il ne nous abandonnera jamais. Vous vous souvenez dans Matthieu, au 6e chapitre, verset 6, il est dit « Retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte » et prie ton Père qui est là dans le secret. Retire-toi dans ta chambre, ça peut être effectivement au sens matériel du terme, mais c'est surtout dans sa chambre intérieure, bien sûr. Se retirer, s'intérioriser, se tourner vers son intériorité, se tourner vers son cœur, comme on dit communément. Et puis de fermer la porte, effectivement, à toutes nos pensées, à toutes nos préoccupations, même si la porte, vous avez remarqué, quand on essaie de méditer, elle a tendance à s'ouvrir souvent. Eh oui, le pen est ne doit pas être de bonne qualité, en tout cas, au moindre courant d'air, ça s'ouvre et on est obligé de régulièrement la refermer. Peu importe, nous verrons que ceci n'a pas beaucoup d'importance. Je vais me servir là d'un livre qui, justement, va nous servir de base à ces cours, en grande partie, écrit par le père Jacques Philippe, dont vous connaissez déjà des ouvrages précédents et que nous avons utilisés. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle « Du temps pour Dieu ». Quelle que soit, dit-il, notre aridité, notre misère, l'impression que Dieu est absent, voire même qu'il nous abandonne, nous ne devons jamais mettre en doute cette présence aimante et accueillante auprès de celui qui prie ou qui cherche à prier. Bien avant que nous nous mettions en méditation, bien avant que nous ayons le désir de nous mettre dans sa présence, de rechercher sa présence, Dieu est déjà là. C'est lui qui nous invite à le rencontrer. Le désir que nous avons de nous tourner vers lui est suscité déjà dans notre cœur par l'Esprit Saint. Ce n'est pas un simple vouloir de ma volonté, c'est une invitation. Dieu m'invite à travers l'Esprit Saint à entrer dans sa présence. J'ai le désir de prier, c'est une invitation. Je réponds à une invitation que Dieu me fait. Alors, je ne parle pas de ceux qui, on en parlera tout à l'heure, de ceux qui souhaiteraient obtenir un résultat, etc., où là, l'Esprit Saint ne serait pas forcément présent, mais là, on va tout simplement aborder ce simple désir de se mettre en prière. Quand on parle de l'oraison et de la méditation, il s'agit d'une prière personnelle, solitaire, dans un face-à-face avec Dieu. On verra que l'oraison est absolument indispensable dans notre vie spirituelle, mais en même temps, elle n'est qu'un aspect de la prière en général. Nous le savons ici, quand on chante les offices, on aura l'occasion de parler aussi comment on doit prier lorsqu'on récite des offices. C'est une règle de prière, comme on dit, soit qu'on les chante seul ou qu'on les chante en communauté. Dieu nous désire infiniment plus que nous ne le désirons. Dieu nous désire infiniment plus que nous ne le désirons. Et c'est important d'avoir cela comme préalable. Dieu désire me donner son amour. Et il désire par une sorte de, je dirais, d'un amour fou, un amour qui souffre de ne pas pouvoir se donner parce qu'on ne le reçoit pas. Un amour qui est total, absolu, et qui est donné à tous, qui que nous soyons. Ce n'est pas par les mérites que Dieu veut nous donner son amour, mais il veut absolument se communiquer, se donner à tous. Et ça, c'est intéressant parce que, quelle que soit notre détresse, quelles que soient les épreuves que nous l'on traverse, quels que soient nos blocages, quelles que soient nos blessures, tous les empêchements intérieurs, psychologiques, matériels, etc., qui se mettraient en travers de notre désir de répondre à ceux d'amour, ou simplement Dieu, lui, de toute manière, veut se communiquer à chacun d'entre nous. Il nous donnera la grâce, trouvera les moyens de nous toucher, quels que soient les empêchements ou les obstacles que nous pouvons avoir. Ça, c'est très important de le savoir, parce que nous pourrons partir du principe que, oui, je voudrais bien prier, mais je ne peux pas. Je ne peux pas pour telle ou telle raison. Et des raisons, il y en a des multitudes. Là où nous en sommes, le simple fait de vouloir répondre à cet amour, à ce désir d'amour, à ce désir d'être aimé, parce qu'il faut qu'on apprenne à se laisser aimer avant de pouvoir aimer, eh bien, Dieu comblera toujours la distance entre lui et nous. Il nous donnera toujours la grâce qui conviendra entre lui et nous. Donc, nous ne pouvons pas invoquer comme excuse, ou simplement par ignorance, qu'il peut y avoir un obstacle à cet amour. Encore une fois, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire et quels que soient nos empêchements matériels, psychologiques ou spirituels, Dieu va trouver le moyen de se donner à nous et de peu à peu nous conduire à la réalité de ce cœur à cœur avec son amour. Donc il faut avoir d'abord cette foi-là. Et il faudra souvent se la rappeler parce que nous avons des mécanismes en nous qui sont tellement puissants, des automatismes où, justement, je vous parlais tout à l'heure de notre habitude à vouloir tout contrôler, ce qu'on appelle dans un autre langage la toute-puissance. Nous sommes habités par cette toute-puissance. Eh bien, le fait d'apprendre à se désarmer, à s'en remettre à un autre, mais non pas, là, il s'agit d'un autre qui est Dieu, eh bien, c'est pour nous difficile. Mais nous savons que par la foi et par la grâce de Dieu, rien est absolument impossible. Et là, il faut avoir justement une foi à soulever les montagnes. Je rappelais dans une homélie, je crois, ou je ne sais plus, un matin, où on évoquait dans l'Écriture justement que si on avait la foi comme un grain de sénevé, le Seigneur nous dit, eh bien, on dirait une montagne, soulève-toi et jette-toi, ou je sais plus, va te jeter dans la mer, ou j'ai oublié, excusez-moi. Eh bien, on serait capable de soulever des montagnes. C'est une image qui, paraît-il, n'est pas seulement une image, puisque en Égypte, il y a eu ce miracle dans les temps anciens. Et c'est une image, évidemment, qui est tout à fait appropriée en nous. Il y a en nous des montagnes, ou du moins ce qu'on croit être des montagnes, eh bien, qui peuvent être soulevées par une foi même très petite. Quelles que soient nos difficultés, nos résistances, nos objections, nous devons croire fermement que tous, sans exception, savants ou ignorants, justes ou pécheurs, personnes équilibrées ou profondément blessées, sont appelés à une certaine vie d'oraison dans laquelle Dieu se communiquera à eux. C'est cette foi-là qui va permettre à notre prière d'être féconde. On le verra après quand on parlera de la persévérance. Mais c'est cette foi-là qui va nous permettre justement cette persévérance. Si le Seigneur nous appelle à une vie d'oraison, et ça concerne tout le monde, c'est parce qu'elle est une source pour nous d'une infinité de bien. Elle nous transforme infiniment, intimement, nous sanctifie, nous guérit, nous fait connaître et aimer Dieu, nous rend fervents et généreux dans l'amour du prochain. Et oui, plus nous recevons, nous faisons l'expérience de cet amour qui nous remplit peu à peu, en nous laissant aimer par l'amour de Dieu, plus nous sommes capables d'aimer les autres. Vous vous souvenez qu'il n'y a qu'un seul et même commandement, le Seigneur le rappelle, ce n'est pas seulement aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit, mais aimer son prochain comme soi-même. C'est un seul et même commandement. On n'aime pas d'une manière personnelle, c'est pas entre Dieu et nous. La vie spirituelle, c'est pas quelque chose qui se vit comme une histoire personnelle totalement détachée de la réalité du monde. Nous sommes incarnés dans un monde tel qu'il est. Nous avons une famille, nous vivons près de proches, nous avons une vie sociale, une vie professionnelle, une vie communautaire ici, bien sûr, dans l'Église. Et nous sommes appelés à apprendre à nous aimer les uns les autres. Dieu nous a fait cette promesse dans l'Évangile qui est « Demandez et l'on vous donnera ». Quand nous avons des difficultés, adressons-nous à Dieu. Quand nous avons besoin de force, quand nous avons besoin d'aide pour accomplir ce chemin spirituel, pour cheminer justement dans cette voie qui sera véritablement une voie en Christ, nous savons bien que si nous ne demandons pas, eh bien, on ne recevra rien. Certains d'entre vous ici le savent, et nous le savons tous. Eh bien, quelquefois, on demande plus facilement pour les autres que pour soi-même. Vous connaissez cet adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et pas au sens égoïste du terme. Au sens où nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de recevoir cette grâce pour pouvoir véritablement entamer un chemin de sanctification. Donc, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. C'est dans Luc, l'évangile de Saint Luc, 11e chapitre. Donc, il s'agit là de persévérer dans cette confiance. La foi me dit que si je me tiens devant Dieu, j'essaye de vraiment d'entrer dans sa présence. Eh bien, il me sera donné forcément toutes les grâces dont j'ai besoin, quels que soient encore une fois les obstacles que l'on peut avoir en soi. Ça demande beaucoup de persévérance que de commencer vraiment à pratiquer la méditation, l'oraison. Beaucoup de patience, et d'ailleurs c'est ce qu'il est dit aussi dans l'épître de Saint Jacques. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Alors l'avènement du Seigneur, c'est pas seulement la parousie dans l'an 15 000 ou 50 000 ou demain matin. Cet avènement, c'est aussi cet avènement dans notre cœur. Il faut aussi interpréter les Écritures au sens, dans leur sens spirituel, dans leur sens mystique. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, il attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première et de l'arrière-saison. » Soyez patients, vous aussi. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Quand il est dit l'avènement du Seigneur est proche, ça veut dire que quand on se met à prier, Dieu adviendra en nous. C'est une évidence. C'est la foi qui nous le dit. La foi, c'est ce sentiment que nous avons, cette certitude que nous avons, bien qu'on ne sache pas comment elle se réalisera, bien qu'on ne sache pas comprendre véritablement cette certitude qui est en nous, mais nous savons, quand nous avons la foi et notamment l'amour de Dieu, eh bien, toutes ces promesses se réaliseront en nous. Donc ça, c'est un préalable absolument important, indispensable. La foi en l'amour sans limite de Dieu pour chacun d'entre nous, je résume, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la vie que nous puissions avoir, quel que soit le passé qui est nôtre. Le deuxième aspect, ça sera évidemment la fidélité, la persévérance. La foi, c'est bien beau, mais une foi comme ça qui ne reposerait pas sur une persévérance, ça ne vaut rien. C'est évident. Ce sont patience et fidélité. Quand on parle de fidélité, c'est une alliance. Dieu m'a tout donné. On entrera dans certains aspects, ou peut-être je répondrai tout à l'heure à vos questions pour expliquer quelle est cette particularité d'un Dieu qui est venu jusqu'à nous, cette particularité propre au christianisme. Pour le moment, donc cette foi, là comme préalable aussi, Dieu s'est uni à moi, donc pour répondre à son amour, il faut que je sois fidèle dans mon désir de m'unir à lui. C'est un engagement. On le verra plus tard, cet engagement est extrêmement important. Sinon, la moindre difficulté, et Dieu sait qu'il va y en avoir des difficultés, il y en aura dans la vie, eh bien, je vais me décourager et lâcher. Non, je me dois d'être fidèle et persévérant, et même si quelquefois je vais trahir cette fidélité, je vais connaître des périodes où je vais me relâcher, il faudra, tôt ou tard, revenir à cette fidélité et à cette persévérance. Ce qui importe d'abord, quand on prie, c'est pas que la prière soit belle, réussie. C'est tout, d'ailleurs tout le contraire qui peut se passer. Nous ne sommes pas égaux, on va dire, dans la prière. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité pour s'intérioriser, soit par expérience, soit tout simplement par des dispositions. Et on peut effectivement parvenir à faire silence, avoir des techniques appropriées qui nous conduisent à un certain silence intérieur. Les gens qui pratiquent le yoga, par exemple, le font, sans pour autant qu'il y ait une foi particulière. La relaxation, par exemple, c'est une des formes de la relaxation que d'essayer de s'enlever cette pression, d'apprendre à se décontracter et de relâcher différentes tensions que nous avons en nous. Là, il s'agit d'un autre domaine. Il ne s'agit pas seulement de réussir à quelque chose. Ce qui est écrit là, ce n'est pas que la prière soit belle et réussie, riche de pensées et de sentiments profonds, mais qu'elle soit persévérante et fidèle. D'ailleurs, quand vous avez remarqué, pour ceux qui essayent de pratiquer l'oraison, on est souvent dispersé. C'est fou d'ailleurs les choses importantes qui peuvent surgir dans l'esprit à ce moment-là. Vous avez remarqué, vous vous mettez en prière, voilà, on se décontracte. Alors il y a des techniques qui nous aident à cela, où on apprend à s'asseoir, on apprend à se relâcher, laisser tomber les épaules, prendre conscience que le mâchoire est serré, qu'il faut qu'on la laisse un peu. Donc on a des dispositions, et puis là on se dit, je vais commencer à prier, réciter la prière de Jésus par exemple, ou toute forme de prière. Et assez rapidement, il y a une pensée qui vous traverse. Et au fait, est-ce que tu te souviens de ce que tu as oublié depuis un moment ? Il y a des choses qui surviennent, effectivement, « Ah, mais bon sang, bien sûr, ça fait un moment que j'aurais dû y penser à ce truc-là. » Et pourquoi ça vient à ce moment-là ? On devrait avoir un petit carnet de notes et dénoter tout ce qui nous traverse. C'est fou. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le moment. Et ça, c'est un des mécanismes de notre moi, petit moi, pour éviter justement de se renoncer, de s'abandonner et de se mettre dans la présence de Dieu. Mais quand on constate ça, il ne faut pas s'inquiéter. On revient tranquillement. On le verra plus tard, quelquefois, cette dispersion qui peut être parfois extrêmement pénible. On ne s'inquiète pas de pouvoir plus ou moins bien méditer. On fait confiance à l'amour de Dieu qui est là. Et ça, c'est un aspect très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut, j'ai qu'à penser à tout et n'importe quoi, me laisser errer dans un imaginaire le plus fou, et Dieu, pendant ce temps-là, lui, il va faire son travail en moi. C'est pas tout à fait ça, hein, quand même. Je fais les efforts pour revenir inlassablement vers cette présence, mais paisiblement, sans tension. Je ne m'inquiète pas de ne pas pouvoir, de ne pas savoir. Je ne m'inquiète pas de me sentir incapable. On verra un peu plus loin, sur le chapitre de l'humilité. Donc, il ne faut pas viser d'abord la qualité de la prière. Tant mieux si la prière est sereine, profonde, évidemment, mais je ne m'inquiète pas d'abord si elle est chaotique. La qualité de la prière viendra avec cette fidélité, avec cette foi en l'amour de Dieu. Un temps d'oraison pauvre, aride, distrait, relativement bref même, mais que l'on prend fidèlement tous les jours, vaut mieux et sera infiniment plus fécond pour notre avancement que de longues prières enflammées, une fois de temps en temps, quand on y est porté par les circonstances. Vous avez remarqué, il y a des moments aussi où c'est beaucoup plus facile. La dernière fois, j'étais au bord de la mer, il y avait un coucher de soleil, mais alors extraordinaire, une mer paisible. Et vous avez remarqué, quand la mer est calme comme ça, une mer d'huile comme on dit, il y a des millions d'étoiles de lumière qui se reflètent à sa surface. J'étais fasciné, quoi. Et je me disais, Seigneur, mais que ta création est belle, quoi. Et mon cœur était tout enflammé et rempli de louanges. Et je me disais, voilà une méditation, qu'elle est belle. Et je me disais, voilà les circonstances dans lesquelles on devrait prier. Je vais me retrouver à l'église tout à l'heure pour méditer après vêpres avec les frères et les sœurs. Je trouve que c'est pas le moment, quoi. Ces moments-là, oui, c'est le moment pour prier. Alors, ces moments-là, c'est vrai. Si nous pouvons rendre grâce, faisons-le. Si nous pouvons rendre grâce pour la beauté, faisons-le. Mais ne comparons pas notre prière qui sera aride, difficile, où je vais me battre avec mes pensées, ou du moins je vais sans cesse être obligé d'éloigner ces pensées en revenant paisiblement à cette présence de l'amour de Dieu. Eh bien, pourtant, c'est cette prière-là qui sera plus féconde. Parce que dans cette difficulté-là, les efforts que nous faisons, Dieu agit vraiment. Il y a vraiment une action qui va transformer peu à peu notre être. Le premier combat à vaincre, quand on a décidé de s'y mettre sérieusement, c'est justement une fidélité coûte que coûte. Si on s'engage à la vie d'oraison, c'est tous les jours. Tous les jours, et je vous conseille d'ailleurs de prendre un temps, pas « je vais essayer de prier le matin ». Disons entre 8h du matin ou 7h du matin et 10h. Je vais voir si je vais pouvoir trouver un peu de temps. Ça, si vous faites comme ça, c'est cuit d'avance. Il faut consacrer un temps qui sera une règle qu'on se donne à un moment où on est sûr qu'on prendra du temps pour prier. Alors, c'est l'idéal si on ne se couche pas trop tard, si on ne reste pas planté devant la télévision la veille ou devant son ordinateur, et si on se couche en priant en disant « Seigneur, donne-moi la grâce demain matin de me lever ». Et le premier geste, après m'être un petit peu débarbouillé et réveillé, je récite 2 ou 3 prières et je vais consacrer un quart d'heure, seulement un quart d'heure, à la méditation. Et cette fidélité-là, je vais le faire tous les jours. S'il arrive, pour des raisons exceptionnelles, de ne pas pouvoir le faire, parce que je suis malade, parce que j'ai dû partir plus tôt, etc., ça ne reste que des exceptions. Mais si je ne m'engage pas fermement à ça, alors je ne pourrai jamais véritablement entrer dans une vie d'oraison. C'est clair et net. Si on n'a pas un temps d'oraison tous les jours, je dis bien tous les jours, et pour ceux ensuite qui ont cette expérience et qui commencent à goûter les fruits de paix intérieure, de joie intérieure, de sentiment de libération, de liberté intérieure, alors l'oraison, elle passe vite à une demi-heure et elle passe vite à une heure. Et plus, parce qu'après, elle devient un état tout au long de la journée. C'est la fidélité et elle seule qui permet à la vie d'oraison d'avoir toute sa merveilleuse fécondité. Voilà. C'est un petit peu comme si on plante une graine dans son jardin, on remet la terre par-dessus et on se dit « vaille que vaille, ça va pousser ». S'il fait un été sec comme le nôtre, ça va pas marcher. Le bon grain, vous savez, dans la parabole, ce grain qui est semé, et s'il tombe dans les épines, il est étouffé. S'il tombe sur la pierre, évidemment, il ne va pas pousser. Il faut qu'il tombe dans une terre, vraiment, qui va être entretenue et entretenue par cette oraison au quotidien. Prendre soin de son âme, c'est comme on prend soin d'une plante. Vous avez tous des plantes chez vous. Alors, si c'est un cactus qui a besoin d'un verre d'eau une fois par semaine, évidemment, mon image n'est pas valable. On a envie d'aller les voir tous les jours. Quand on aime les plantes, c'est ce que je fais. Moi, tous les jours, je vais... chez nous, il y en a beaucoup. Dans notre véranda, tous les jours, je leur dis qu'elles sont belles. Et je leur remercie de ce qu'elles m'apportent, nous apportent. Justement, ça, c'est une image qui est semblable à cette oraison au quotidien. Fidélité. On a vu la foi en cet amour fou et il y a cette fidélité et cette persévérance sans laquelle rien n'est possible. La foi sans cette fidélité et cette persévérance ne sert à rien. Alors, il y a un autre aspect, un peu inattendu, c'est ce qu'on appelle la pureté d'intention. En d'autres mots, qu'est-ce que je mets comme intention derrière ça? Est-ce que je vais prier en me disant, bon, je prie pour obtenir tel ou tel résultat. Je veux arriver à tel ou tel résultat. Souvent, nos prières, d'ailleurs, on a le droit de demander des grâces, bien sûr, je vous l'ai dit. Mais en même temps, demander des grâces et avec le souci de Seigneur de faire ta volonté. Si je suis malade, je peux demander la grâce d'être guéri. Mais qu'il en soit fait, Seigneur, selon ta volonté. Sinon, je demande des grâces pour un projet personnel. Ça peut être pour obtenir mon permis de conduire, pour obtenir mon examen, etc. Demander de l'aide pour tout ça, c'est tout à fait légitime. Mais en même temps, se détacher, faire confiance à l'amour de Dieu. Quand je veux absolument obtenir quelque chose pour parvenir à mes fins, même si c'est légitime d'un point de vue humain, je mets mon intérêt avant l'amour de Dieu. C'est très important de laisser cet amour nous guider. C'est très important d'avoir foi absolue en cet amour et se dire, eh bien, si ça ne se passe pas comme ça, c'est que je sais que ça ne doit pas se passer comme ça selon la volonté de Dieu. Autrement dit, quand on parle de la volonté de Dieu, ça veut dire que ça ne se passera pas comme ça parce que mon cœur n'est pas assez humble, parce que si j'obtiens ce que je désire, eh bien, cela va m'égarer, absolument pas permettre véritablement une rencontre profonde, féconde avec l'amour de Dieu. Donc il est dit là, après la foi et la fidélité, une autre attitude intérieure fondamentale pour qui veut persévérer dans la prière et la pureté, est la pureté d'intention. Et l'auteur cite « Heureux les cœurs purs », c'est la béatitude dans l'évangile de Matthieu au 5e chapitre, « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu ». Être pur de cœur, ça signifie pas d'être parfait. Ça ne signifie pas une sorte de sainteté absolue. Quand on parle de pureté absolue, oui, alors on regarde la Vierge, oui. Notre mère, la Théotokos, comme on l'appelle dans l'orthodoxie, eh bien, c'est vrai que c'est la pureté absolue. Mais heureux les cœurs purs, purs dans notre intention, purs dans le désir de faire la volonté de Dieu, purs de se laisser guider, c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et purs de cœur, selon l'Évangile, non celui qui n'a aucun péché, on est tous d'accord, hein. Là, de ce côté-là, on a une certitude, c'est que tous nous sommes pécheurs. Beaucoup plus d'ailleurs qu'on ne le pense. Il y a des choses dont on a conscience, mais beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. Donc, ce n'est pas celui qui est sans péché, qui n'a jamais rien à se reprocher, mais celui qui est animé dans tout ce qu'il fait, l'intention sincère de s'oublier lui-même pour plaire à Dieu. De vivre non pour soi, mais pour lui. Voilà un aspect qui est très important. Se renoncer. S'oublier. Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas le désir de me renoncer, je vais toujours contrôler. C'est toujours ma volonté qui va se mettre en avant, sans même que je me rende compte. Le désir de me laisser guider, le désir de me renoncer, de me donner, de m'oublier, et de chercher véritablement, là, de plaire à Dieu, c'est pas au sens superficiel du terme, c'est véritablement de faire confiance à cet amour, je sais qu'il va me guider. Je sais qu'il est vérité. Je sais qu'il ne peut pas me trahir. Je sais qu'il m'apportera toujours exactement ce dont j'ai besoin. Ma foi, elle est absolue par rapport à cela. Tandis que si je me fais confiance moi-même, je vais mettre mes intérêts en avant, c'est évident. Et comme je vous l'ai dit, pas forcément d'une manière subtile, ce qui m'échappe. C'est une disposition indispensable intérieurement. Si on veut vraiment méditer. On doit prier non pour se rechercher soi-même, pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir à Dieu. Sans cela, on ne pourra jamais persévérer dans la prière parce que ça va devenir très difficile. On va être déçu parce qu'on ne va pas obtenir ce qu'on attend, c'est évident. C'est ça le plus difficile. C'est de se mettre dans cette disposition et se dire « Je me renonce, Seigneur. Je me donne à toi. Je m'engage. » À vraiment essayer le mieux que je peux à faire ta volonté, comme on dit. C'est pas une volonté qui s'impose à nous. C'est une volonté qui va nous révéler véritablement ce à quoi nous sommes appelés. Se laisser guider par cet amour qui va nous donner l'intelligence du discernement, l'intelligence du cœur, Parce que le Seigneur, il ne va pas faire de nous des robots. Il va nous éclairer. Il va nous donner justement ce discernement dont nous avons besoin, qui va nous permettre de poser des actes pour véritablement sceller cet amour entre Dieu et nous. Qui se recherche lui-même, recherche sa propre satisfaction, abandonnera bien vite la prière quand celle-ci deviendra difficile, on l'a déjà dit. Donc, on ne recherche aucun bénéfice. Tant mieux si ma prière a été profonde, paisible, où j'ai vraiment eu le sentiment de ce cœur à cœur. Je me suis épanché, j'ai répondu à son amour, dans l'action de grâce, dans l'adoration, dans l'humilité. Tant mieux. Mais si c'est le contraire et que c'est j'ai galéré et j'ai passé une demi-heure à me battre sur mon petit banc et pour essayer de me tenir en présence et j'avais envie de bâiller, j'avais envie de partir, et puis je me dis je peux pas partir parce qu'il y a les autres qui sont assis à côté de moi, là je suis obligé de rester. Et donc, ben oui, à toi aussi ça t'arrive. Donc, et d'être là et quelquefois on aura envie de se coucher comme ça, tu vois. Ah, ça, je me sens mieux comme ça. Et parce que ça m'est déjà arrivé, puis on s'endort. Et d'un seul coup, on entend, il y a un ronflement qui nous réveille, c'est le nôtre. La honte. Et là, il faut confesser évidemment sa faiblesse, sa fragilité. Ben oui, c'est une réalité. Voilà. Et on se remet sur son banc. Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur, quoi. Et de le confesser humblement. Eh bien, c'est une prière qui va être beaucoup plus féconde qu'on ne pense. Beaucoup plus féconde, parce que Dieu sait que nous sommes faibles. Il y avait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, elle avait du mal à méditer. Vous savez, quand on fait des longues méditations, en général, quand on fait des longues méditations, ça se pratique dans les communautés religieuses. Hein. Alors, il y a la raison, mais on a aussi un livre à comprendre. Et puis, on va prendre ce livre, on va lire quelques passages, quelques pages parfois qui vont nous aider à nous recentrer, nous donner une nourriture, et puis on repart dans l'oraison. Voilà, on peut aussi passer comme ça une heure d'oraison en alternant des moments où on va lire soit des psaumes, soit une lecture spirituelle, et tout en revenant à cette oraison intérieure. En fait, la prière, c'est de donner du temps gratuitement à Dieu. Vous savez, quand on aime quelqu'un, vraiment, on se réjouit d'être en sa présence. Il n'y a pas d'autre intérêt que d'être en sa présence. On n'a pas besoin de penser à quelque chose de particulier. On n'a pas besoin de faire des choses particulières. On n'a pas besoin. Il n'y a pas forcément d'objet particulier à être en sa présence. On est dans un cœur à cœur. Ça suffit. Avec Dieu, c'est ça. L'oraison, c'est ça. Il n'y a pas d'autre intérêt que d'être dans ce cœur à cœur, de le rechercher. C'est tout. Ça paraît pauvre. Eh bien, ça l'est. Ça l'est parce que c'est tout à fait ça dont il s'agit. C'est vraiment cette pauvreté-là dont nous avons besoin. Alors, on n'est pas encore dans une grande expérience où nous pourrons affirmer que on ne se recherche pas nous-mêmes dans ce cœur à cœur, dans ce désir de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est plus tard qu'on apprendra vraiment à se purifier. On est encore plein de nous-mêmes. On essaye de se tenir dans ce cœur à cœur avec Dieu. Mais c'est sûr qu'on recherche encore son intérêt, ne serait-ce que je vais être aimé par le Seigneur. On verra plus tard, bien plus tard, qu'il faut aussi apprendre à se détacher de Dieu, mais ça, je parlerai de ça même dans les cours suivants, ça c'est pour les grands. Nous sommes dans la cour des petits, et d'ailleurs je suis un petit avec vous, je m'empresse de vous le dire. Nous devons apprendre à recevoir cet amour de Dieu, de désirer l'aimer, répondre à cet amour avec un amour pur et désintéressé. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison que celle-ci. Et encore une fois, avoir cette confiance absolue dans laisser agir l'amour de Dieu en nous. Laisser agir sa grâce. Nous nous disposons intérieurement pour que sa grâce puisse agir en nous. Voilà quelle est l'œuvre véritablement de la méditation ou de l'oraison. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, la petite Sainte Thérèse, nous rappelait que l'homme ne plaît pas à Dieu d'abord pour ses vertus et ses mérites, comme on l'a dit tout à l'heure, mais avant tout par la confiance sans borne qu'il a en sa miséricorde. Vous savez, il y a cette prière-là que vous connaissez, que certains d'entre nous connaissent, c'est « Aime-moi tel que tu es ». Le Seigneur me dit « Mais qui que tu sois, eh bien, tourne-toi vers moi. Moi, je t'aime comme tu es. Donc, toi, aime-moi tel que tu es. » Et c'est très important d'avoir cette démarche-là. Je peux me sentir moche, je peux me sentir pécheur, je peux me à certains moments vraiment me sentir, peut-être suite à un événement où j'ai vraiment pas été à la hauteur, où j'ai fait du mal, où j'ai encore chuté dans les mêmes travers, me culpabiliser. Et le Seigneur me dit, mais calme-toi. Au lieu de t'affliger, de te flageller, etc., tourne-toi vers moi. Viens vers moi comme tu es. Je veux t'aimer comme tu es. Dépose tout cela en moi. Et là, c'est un aspect important parce qu'on va parler de l'humilité et de la pauvreté de cœur. Donc, on a vu la foi, on a vu la persévérance et la fidélité, on a vu cette pureté d'intention qui est simplement de se laisser aimer et d'aimer. Et puis, nous allons voir maintenant un autre aspect extrêmement important qui est l'humilité, la pauvreté de cœur. Et on vient déjà de l'aborder parce que cette pauvreté, on va la toucher du doigt souvent. Elle sera une affliction constante. Et même plus on va faire oraison, plus on va méditer, plus cette pauvreté et cette misère humaine va se révéler à nous. Eh bien, on va apprendre à ne pas s'en inquiéter. Sainte Thérèse d'Avila qui dit que tout l'édifice de l'oraison, donc de la méditation, est bâti sur l'humilité. Une oraison profonde, une méditation profonde est bâtie sur l'humilité. Et Dieu sait qu'on va faire le constat de nos incapacités qui sont multiples. Donc, nous savons que la fécondité de la méditation, son épanouissement en nous, ne vient pas de nos capacités, ni même de nos techniques, hein, je m'empresse de le dire, mais sur l'action de la grâce divine. Et l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Nous l'avons dit souvent, ça c'est dans la première épître de Saint Pierre au 5e chapitre, verset 5. Le Père Mathieu Maskin dit aussi que lorsque un cœur se fait humble, l'Esprit Saint jaillit. L'Esprit Saint se manifeste, l'Esprit Saint le remplit. L'Esprit Saint vient dans son cœur. Autrement dit, la grâce de Dieu est aussitôt que un cœur est humble, Dieu, dans son amour infini, s'épanche en lui, infuse sa grâce en lui. Et on va essayer de cheminer dans cet aspect de l'humilité. Donc c'est une attitude fondamentale du cœur, sans laquelle la persévérance dans la prière est aussi impossible. L'humilité est la capacité d'accepter paisiblement sa pauvreté radicale. Parce que cette pauvreté-là, il faudra bien qu'on puisse l'accepter. On va l'avoir de plus en plus. Et au lieu de nous en affliger et de dire qu'elle est un obstacle, elle nous empêche, eh bien, au contraire, nous allons découvrir qu'elle est une aide. Cette pauvreté radicale, parce qu'on met toute sa confiance en Dieu, ne sera pas un obstacle. L'humble accepte joyeusement de n'être rien. C'est pas vrai ça, hein, quand on le vit, quand on n'est pas humble. Quand on n'est rien, qu'on découvre vraiment qu'on est misérable, qu'on est en face toujours des mêmes choses, etc., quand on a de la colère, de la jalousie, de l'envie, et je ne sais quoi. Si on n'accepte pas, qu'on ne regarde pas ça, alors quand on parle d'acceptation, c'est de dire au diable l'avarice, laissons-nous aller. Je suis ce que je suis, vous allez me prendre comme je suis. Non, évidemment, l'acceptation joyeuse de tout cela, c'est pas dans ce sens-là. Surtout si ça nous afflige. Mais accepter en sachant que l'amour de Dieu va se servir de tout cela. Découvrir combien nous sommes pauvres, misérables, eh bien, va nous apprendre à être humbles, va nous apprendre davantage à nous ouvrir, va nous apprendre davantage à nous désarmer, à nous renoncer, montrer que, justement, nous sommes incapables et que c'est l'occasion de laisser son amour venir jusqu'à nous. L'humble accepte joyeusement de n'être rien parce que Dieu est tout pour lui. Au fond, quelle importance si je suis un nul, puisque Dieu est tout pour moi. Tout ce que je voudrais être sur le plan humain, tout ce que je voudrais affirmer, tout ce que je voudrais que les autres voient, tout ça n'a aucune importance. Si Dieu est tout pour moi, je vais le laisser agir. Il va faire justement de moi cette créature nouvelle que je suis déjà au plus profond de moi-même. Je suis déjà une créature éblouissante, magnifique. Par le baptême. Mais c'est pas encore actualisé. Et pour me rendre compte, j'ai besoin de voir dans mon humanité combien ce n'est pas actualisé et qu'il faut que je laisse la grâce de l'Esprit-Saint agir en moi. L'humble ne considère pas sa misère comme un drame, mais comme une chance, car elle donne la possibilité à Dieu de manifester combien il est miséricordieux, combien il est bon, combien même son amour est humble, beaucoup plus humble que nous ne le serons jamais. C'est ça qui est extraordinaire. Ce Dieu qui a épousé mon humanité, qui m'accompagne, qui s'est fait plus petit que moi-même, qui sait exactement ce que je vis, qui a épousé toutes ces misères, qui les a fait siennes. C'est ça le grand mystère de l'incarnation du Verbe en Christ. Et qui justement me rejoint là, exactement là, à ce moment-là. C'est quand Saint Jean dit dans son prologue, quand il parle de « et la lumière brille dans les ténèbres ». La lumière, c'est-à-dire son amour, sa présence, se révèle là, au moment où justement je me sens tellement moche, tellement souffrant, tellement perdu, tellement incapable. Et je m'ouvre à lui. Seigneur, je m'ouvre à toi. Je ne cherche pas mille une solution. Je ne me perds pas dans la culpabilité. Je ne cours pas tous les psys du coin pour essayer de trouver un moyen d'eux. Si j'en ai vraiment besoin, j'y vais, oui. Parce que des fois... Ça peut aider quand même un peu. Quand on a la foi, alors on peut rentrer dans cette voie royale. Et le miracle s'accomplit. Oui, les miracles s'accomplissent. C'est ça qui était fabuleux. La miséricorde de Dieu devient manifeste. On la savoure, on la goûte. Elle s'infuse en nous sous cette forme de paix intérieure. On peut être dans l'épreuve à l'extérieur, on peut être au milieu de mille et un tracas. Et puis soudain, de sentir que l'amour de Dieu est présent et que je ne crains rien. Je peux être dans la tempête comme les apôtres sur le lac de Galilée qui s'affolaient et il y avait le Seigneur qui dormait. Alors il disait, mais enfin, regardez, il roupille et on va couler, quoi. Alors il réveille, Seigneur, au secours. Alors lui, il se réveille, le Seigneur ne dort pas, on le sait bien. Il leur dit, homme de peu de foi, et il calme la tempête. Pourquoi tu t'inquiètes? Je suis avec toi. C'est ça la foi en son amour. Son amour ne me quitte jamais. Le Christ est toujours avec moi d'une manière totale, définitive. Qu'est-ce que j'ai à m'agiter, à m'inquiéter? À cause de ceci, de cela, ou à cause de moi, de ma faiblesse, de ma misère, de mes blessures? Je suis perdu. Non, je ne suis pas perdu. Parce que le Seigneur est venu jusqu'à moi et il ne me quittera jamais. Est-ce que moi, j'ai la foi, la persévérance et cette pureté d'intention, ce désir de me tourner vers lui humblement. Et là commence une aventure extraordinaire. Une aventure où justement tout devient différent. Tout s'illumine d'une lumière particulière. Attention, ça ne veut pas dire que les épreuves dans lesquelles je suis plongé, elles vont disparaître d'un coup. Comme un coup de vent qui chasse les nuages et pouf, voilà. Il y a le soleil ou les étoiles merveilleuses d'une nuit d'été. Non, Dieu agit dans cette épreuve. Il se sert de cette épreuve. Et peu à peu va grandir en moi cette humilité que je n'ai pas. Peu à peu, je vais apprendre à me désarmer, à fonctionner autrement, à vivre dans cette synergie, dans cette union de la volonté divine avec ma volonté humaine. Sans humilité, eh bien, on ne peut pas persévérer, l'oraison n'est pas possible. Il faut faire l'expérience de la pauvreté, de dépouillement, de nudité. C'est vrai que quelquefois, on fonctionne depuis si longtemps d'une certaine manière que le jour où on comprend qu'il va falloir lâcher des choses, ça nous paraît impossible, ça nous paraît insurmontable. Mais encore une fois, si ça nous paraît insurmontable, c'est l'occasion de faire confiance encore plus à l'amour de Dieu. Quand on prie en communauté, quand on prie en lisant son office, on a un support là. C'est vrai que je peux prier tout en pensant à autre chose, c'est comme la méditation. Mais disons que c'est plus facile de prier avec les autres parce qu'il y a une sorte de dynamisme. Dans l'oraison, on est face à face. Et cette nudité, elle va apparaître tôt ou tard. C'est inévitable. Et heureusement. Donc l'oraison est indispensable parce qu'elle va nous faire découvrir. Elle va nous aider à prendre conscience et à lâcher toutes ces pauvretés. On peut faire dans la prière, effectivement, et souvent, parce que Dieu ne va pas nous laisser dans l'aridité et dans l'épreuve, il va nous faire goûter sa douceur, il va nous faire goûter sa tendresse. mais il va aussi nous laisser, justement, pour que nous puissions apprendre ce chemin d'humilité, il va nous laisser face à face avec cette pauvreté, avec cette misère, et nous aider à comprendre qu'il faut que nous l'acceptions et que nous lui donnions. Une des formes de pauvreté qui va nous assaillir, c'est le fait de dire « j'arrive pas à prier ». Je vous en parlais tout à l'heure. Ça fait un mois que j'ai persévéré. Je me tiens fidèlement à la méditation tous les jours et Dieu sait que ça me coûte. Mais au bout d'un mois, j'ai toujours pas réussi à avoir le calme intérieur que je souhaiterais. Parce que c'est ce que j'ai lu dans les livres quand même. Puis quand je vois les autres là, l'autre à côté là, il a l'air d'être... il a l'air d'être prié, il sort de là, il nous fait un sourire... Je ne comprends pas pourquoi moi je galère, là, je suis vraiment le roi des nuls, quoi, c'est pas possible. Alors, à quoi ça sert? Donc je ne suis pas fait pour ça. La raison, ce n'est pas pour moi. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Il ne nous délivre pas de cette aridité-là, alors c'est parce que nous devons, encore une fois, lui faire confiance. Et c'est ça le plus difficile. C'est de faire confiance au-delà de ce que nous avons comme expérience de la confiance. L'humilité, ce chemin d'humilité, ce sera vraiment de sans cesse s'en remettre à cet amour. Dans une persévérance qui va nous coûter, certes. Et dans ce désir de se laisser façonner par lui. Dans ce désir de le laisser guider véritablement notre raison. Mais en général, Dieu, il nous donne toujours des petites touches de tendresse pour pas nous laisser tomber quand même. Soit directement dans le réseau, dans la méditation, soit par des grâces qu'il nous donnera par ailleurs. Le raison, elle n'est pas coupée de notre vie de tous les jours. C'est un des aspects qu'on verra plus tard. Fréquemment, il le dit l'auteur là, ce sera notre misère qui va se révéler, notre incapacité à prier, nos distractions, les blessures de notre mémoire, de notre imagination, le souvenir de nos fautes, de nos échecs, nos inquiétudes à l'égard de l'avenir, etc. Et l'homme trouvera donc mille prétextes pour fuir cette inaction devant Dieu, qui lui dévoile son néant radical. Et ça, ce néant-là, on n'a pas envie de le voir, parce qu'on n'y croit pas vraiment. Après tout, je suis quand même quelqu'un, non? Non, vous ne trouvez pas? Hein, qu'on est quelqu'un? Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux leur appartient. Encore une fois, c'est dans les béatitudes. L'humble est celui qui persévère dans la vie d'oraison, sans présomption, sans compter sur lui-même, qui ne considère rien comme un dû, qui ne se croit pas capable de faire quoi que ce soit par ses propres forces. C'est difficile, ça. On croit tous qu'on est capable de faire quelque chose. On ne parvient pas à cette oraison, à cette méditation profonde, en ce cœur à cœur avec Dieu, sans se débarrasser de cette présomption qui prétend compter sur elle-même, qui prétend aussi que c'est un dû quand on attend une grâce particulière et qui met sa confiance dans ses propres forces. Celui qui est humble ne s'étonne pas d'avoir des difficultés, des fragilités, des chutes constantes, mais qui supporte tout cela paisiblement sans dramatiser, car il met en Dieu toute son espérance. Parce qu'on est sûr d'obtenir sa miséricorde, on est sûr d'obtenir son amour. Si on fait vraiment cette confiance, alors, eh bien, on aura forcément une consolation. Et puis, si nous ne l'avons pas, cette consolation, c'est tout simplement parce que on reste bloqué sur soi-même, on reste dans nos certitudes, dans nos résistances, dans nos culpabilités, dans tout ce qu'on voudra. On ne se lâche pas, on ne se renonce pas, on ne s'oublie pas. Et on va trouver mille et une justifications, mais la seule explication, ce sera on ne fait pas confiance à l'amour de Dieu. On ne fait pas confiance à sa miséricorde. On ne fait pas confiance à sa grâce, tout simplement. Si nous n'obtenons pas cette paix intérieure, cette grâce, c'est tout simplement parce que on ne se renonce pas. On veut continuer de contrôler les choses, et on les contrôle en cherchant à comprendre, on les contrôle en cherchant à appliquer des méthodes, etc., etc. L'humble, vrai, ne se décourage jamais. Alors, on va se décourager. C'est normal de se décourager. Mais si j'accepte que ce découragement vient justement de mon manque de foi, alors je dis, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force, la grâce de persévérer. Je crois, tu vas me la donner, j'en suis sûr. C'est de cela dont il s'agit. Je suis sûr, Seigneur, que tu vas, j'ai besoin de ces grâces. Je confesse que je n'ai pas cette grâce, que je n'ai pas cette force, que je n'ai pas ceci ou cela. Et là, on fait une démarche humble, et le Seigneur vient à notre secours. C'est Sainte Thérèse, je crois, qui avait une image très, très belle, d'ailleurs, du petit enfant qui est en bas, là, qui voudrait monter l'escalier. Et il tend les mains comme ça, il peut pas, il est trop petit, quoi. Ou même, il peut faire qu'une monter une marche. Il y a son père ou sa mère, ou son père qui est en haut. Qu'est-ce qui se passe? Viens, viens me chercher. Et vous croyez que le cœur d'un père ou d'une mère va résister à cet enfant qui l'appelle? Il descend. Comme chez nous, Dilena, vous savez, Dilena, qui est la petite minette blanche, là. Elle vous regarde comme ça, elle dit, viens me prendre dans tes bras. Comment voulez-vous qu'on craque pas? Alors on la prend, voilà, et alors elle, avec ses pattes, vous savez comment elle fait, hein. Elle est toute heureuse. Eh bien, c'est exactement ça. Le Seigneur, il nous prend sur son cœur. Et nous, on peut faire comme ça avec les mains, si vous voulez, comme me dit Léna. Et on va jouir de cet amour. Hein. Voilà, parce qu'on aura fait cet acte d'humilité. On aura confessé notre incapacité. C'est très important, cette attitude-là. Alors, dans le cheminement spirituel, on n'apprend pas tout seul à cheminer. C'est bien de demander conseil, de demander à quelqu'un qui est expérimenté ou à son confesseur de dire, voilà, de confesser ses difficultés. Nos difficultés, on les partage, même entre nous, on les partage pour se dire, voilà, telle ou telle difficulté. Dire, à moi, la méditation, là, c'est super, c'est, je rentre là-dedans, mais j'ai vraiment une grâce extraordinaire, quoi. Oui, tu veux quoi comme conseil? Voilà, je ne suis pas certain que ce soit vraiment ça, mais quand quelqu'un qui confesse sa difficulté, voilà, c'est le désert, j'ai l'impression que je décolle, mais que je vais dans une espèce de sphère, mais je ne me sens pas vraiment incarné. Quand on parlera des aspects un peu plus pratiques, on parlera un petit peu de cette attitude, cette façon de se placer dans la présence de Dieu, mais pas d'une manière abstraite, mais d'une manière concrète, où je sens que je suis dans mon corps, où je sens que je suis assis sur un petit banc, je sens que je suis dans l'église, ou chez moi, dans ma chambre, ou dans mon oratoire, où je sens que dehors, si je suis assis, ou au bord de la mer, comme j'évoquais tout à l'heure, je suis là, dans la communion avec les éléments, avec la nature. Plus notre cœur est intériorisé dans cette présence, plus ce que nous sommes dans notre être, plus ce qui nous entoure se fait aussi présent. Et ça ne nous disperse absolument pas, c'est tout à fait l'inverse. Parce que les choses seront de présence à nous du fait de cette intériorité, de cette communion avec ce cœur à cœur, avec l'amour de Dieu. Persévérons donc dans cette prière et Dieu peu à peu mettra l'amour en nous. Parce que cet amour de Dieu qui est absolu, qui est fort, qui est brûlant, incandescent, de charité, de compassion pour nous, lorsque chaque fois que nous ferons un acte d'humilité, eh bien, il viendra nous toucher, c'est une évidence. Peut-être on ne l'expérimentera pas d'une manière sensible, mais il va édifier en nous peu à peu cet homme nouveau et cette capacité que nous aurons à cheminer dans la pratique de la méditation et de l'oraison. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc on résume, on a parlé de la foi, fidélité et persévérance, et ensuite pureté d'intention, et après l'humilité.